assure efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée, Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il existe des méthodes et des cours pour presque tout, cuisine, philosophie, conduite, langues étrangères. Mais peut-on enseigner la sexualité et apprendre à bien faire l'amour? Ce n'est pas si simple, ce n'est pas si naturel. Dans le domaine de l'art de séduire et de l'acte charnel, les humains se distinguent des animaux qui, eux, s'inspirent en observant leurs congénères adultes. L'espèce humaine serait donc la seule à devoir apprendre par elle-même à faire l'amour, avec à la clé un certain nombre de difficultés, de ratés et même d'angoisses. Alors, est-ce que l'on peut apprendre à faire l'amour? Comment? En pratiquant, en lisant, en s'informant? Et de votre côté, comment vous avez-vous appris à faire l'amour? Est-ce que vous êtes en quête de découverte? Est-ce que vous êtes novice? Est-ce que vous considérez comme tel? Est-ce que vous avez des questions pour vous améliorer? Le docteur Catherine Solano, sexologue, est avec nous pour écouter vos témoignages et bien sûr répondre à toutes vos questions. Docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors une vaste question pour cette émission sur l'apprentissage de l'amour. Faire l'amour, ça s'apprend? Comment? Sur le tas? Ou en lisant des livres? Ou en écoutant des conseils?
Je pense que ça s'apprend plutôt en pratiquant à deux, petit à petit, progressivement, et qu'on continue à apprendre toute la vie. Et que je pense aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent « Oh là là, mais je ne sais rien, donc je vais être mauvais, je ne vais pas être bon au début ». Et justement, ce qui compte dans l'amour, c'est pas la technique, c'est plutôt les émotions. Donc, on peut avoir deux jeunes qui n'ont jamais fait l'amour, qui vont peut-être être maladroits un petit peu, mais ça va être extrêmement doux, tendre et excitant. Et ça sera plus réussi peut-être que deux personnes qui ont roulé leur bosse et qui s'aiment pas et qui font juste une prestation de service, vous voyez?
Et qui ont des exigences un petit peu matérielles et pas des exigences émotionnelles.
Exactement.
Alors, on va donner la parole, bien sûr, à vous qui nous écoutez, les auditeurs de Priorité Santé, et même un petit appel, les auditrices, appelez-nous, parce qu'on a beaucoup de messieurs qui s'interrogent ce matin. On aimerait bien que les dames donnent également leur avis. L'amour, ça se fait à deux, un homme, une femme. Donc, mesdames, n'hésitez pas, voire plus, appelez-nous. Et ce premier auditeur, lui qui a eu l'envie, le courage de nous appeler, c'est Patrick. Patrick qui est en ligne du Cameroun à Yaoundé. Bonjour Patrick.
Bonjour Caroline.
Le docteur Catherine Solano vous écoute. Votre question ou votre témoignage?
D'accord, bonjour docteur.
Bonjour Patrick.
Bon, comme je disais, j'ai 26 ans, je n'ai pas encore pratiqué l'acte. En fait, j'ai opté pour la chasteté et la fidélité. Et c'est de même pour ma fiancée. Et dans quelques mois, on va se marier. Mmh. Seulement, chaque jour qui approche, j'ai peur, j'espère. Parce que dans mon imaginaire, le premier rapport sexuel sera douloureux et je ne tiens pas à lui faire mal. Alors je me demande, est-ce qu'il y aura vraiment de la douleur? Et si oui, comment l'éviter? Ça, c'est ma première question.
Des appréhensions du côté de Patrick, docteur Catherine Solano, sur cette première fois, ça reprend un peu ce que vous nous disiez à l'instant.
Alors déjà, si vous voulez, toutes les femmes n'ont pas mal la première fois. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas mal. Il y a à peu près 30% des femmes qui n'ont ni de douleur, ni de saignement la première fois. Donc, c'est pas sûr qu'elle ait mal. Donc, ça, c'est important. Ensuite, même quand il y a une douleur et un saignement, normalement, c'est tout à fait supportable parce que l'hymen, c'est un organe qui est fait pour se déchirer, il est prévu pour ça. C'est pas une intervention chirurgicale la première fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, normalement, globalement, ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a quelques femmes qui ont un hymen très épais où c'est difficile, mais où il faut même une petite intervention, mais c'est quand même quelque chose de rare. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Bon, si vous voulez vraiment que ça soit beaucoup plus facile, il y a plusieurs choses à faire. Ça serait de dire à votre fiancé d'utiliser des tampons avant la première fois parce que ça pourrait déchirer ou élargir un petit peu son hymen et faire qu'elle ait moins mal la première fois. Mais après, on n'a pas forcément envie de se déflorer avec un tampon non plus. Ça dépend de comment on le voit. Ce qui est important aussi, je pense, quand je vous entends, c'est que vous lui disiez ce que vous nous avez dit. que vous lui dites, écoute, tu sais, moi, la première fois, j'ai peur de te faire mal. Je voudrais pas te faire mal. Ça m'angoisse. Je veux pas te faire mal. Et si vous voulez une femme dont le fiancé lui dit ça, elle se dit, ouf, il a pas envie de me faire mal. Il est gentil. Donc, même si elle a un petit peu mal, elle saura que vous allez arrêter si elle vous dit stop, etc. Donc, si vous voulez, c'est déjà la rassurer. Parce que si elle, elle a peur d'avoir mal et que vous, vous avez peur de lui faire mal, mais que vous n'en parlez pas, ben, vous allez tous les deux stresser. Alors que si vous dites on a peur tous les deux, vous allez vous dire, ben, on va bien se débrouiller. Et puis, je vais vous rajouter une chose, c'est que quand on n'a jamais eu de rapport sexuel, on n'est pas obligé de réussir la première fois à faire une pénétration parfaite. Il y a beaucoup de couples. Je pense à une dame que j'ai connue qui m'a dit, moi, quand je me suis mariée, j'étais vierge, mon mari aussi. Eh ben, on a mis 11 jours pour y arriver. Et elle me dit, j'ai une copine, ils ont mis seulement 8 jours. C'est pour vous dire que c'est pas du tout quelque chose de... Et c'est une femme qui a été très épanouie par la suite. Donc, je dis pas qu'il vous faudra forcément autant de jours, mais il faut pas se mettre la pression en se disant, on doit y arriver tout de suite ou dans les deux premiers jours. Si vous vous découvrez petit à petit, c'est des moments merveilleux et il faut pas se forcer en disant, on doit faire ça, ce qui vous gâcherait le plaisir. Voyez?
Patrick, est-ce que vous avez une question supplémentaire?
Ah oui. Mm-hmm. La seconde question, c'est, puisque ici, l'idée reçue, c'est que pour déplorer une femme, il faut forcément le faire avec le doigt. Ça ne se fait pas avec un pénis. Et moi, je trouve ça, non pas que c'est sale, et c'est morbide. Alors, est-ce que c'est obligé d'utiliser le doigt? Le pénis, il est fait pour ça, c'est ce que je pensais.
Mm-hmm. Docteur Catherine Solano.
Eh bien, écoutez, la vérité, c'est qu'on fait comme on veut. L'avantage du doigt, c'est qu'on peut faire des caresses au début et c'est qu'un doigt, c'est plus petit qu'un pénis. Donc, quelquefois, si vous voulez, le doigt peut passer facilement. Et du coup, si c'est agréable pour la jeune femme, ça va la rassurer. Elle va se dire, bon, bah, c'est un petit peu comme quand une femme met un tampon, elle se dit, bon, je sais qu'il y a une ouverture, ça peut rentrer. Donc, si vous mettez le doigt, alors que vous avez fait des caresses avant, ça peut la rassurer. L'inconvénient, c'est qu'au bout du doigt, le doigt, c'est beaucoup plus dur, il y a un ongle au bout, alors que le pénis, c'est très doux, beaucoup plus doux, sa peau est plus douce, le gland, c'est plus doux, donc c'est vraiment étudié pour ça. Donc, si vous n'avez pas envie de le faire avec un doigt, moi, je vous conseille de suivre dont vous avez envie. Par contre, je vais vous donner un conseil quand même, c'est de vous aider avec les mains pour faire rentrer votre pénis, parce que le guider vous-même ou que votre partenaire le guide, ça aide beaucoup la première fois.
Voilà Patrick pour cette réponse du docteur Catherine Solano. Excellente journée à vous à Yaoundé.
Et bon mariage alors, dans quelques mois.
Merci.
Bonne journée à vous. On va partir pour la République démocratique du Congo. John est avec nous en ligne de Lubumbashi. Bonjour John.
Bonjour Caroline.
Le docteur Catherine Solano vous écoute. Est-ce que vous avez une question?
Oui, j'ai une question. Bonjour Madame Solano.
Bonjour John.
Ma question est venue en tête par rapport à votre intervention dans l'émission du 1er mars de cette année.
Mm-hmm.
Au moment où vous étiez en train d'intervenir, c'était parlant de l'orgasme chez la femme.
Mm-hmm.
Vers la fin de l'émission, vous avez dit que l'orgasme chez la femme, c'est une préoccupation, mais il faut être patient puisqu'il n'arrive pas, ou la femme n'arrive pas à atteindre l'orgasme dès les premières périodes ou le premier temps de ce rapport sexuel.
Mm-hmm.
Maintenant, ma question là-bas était quoi? Je me suis dit, alors, quand la femme n'arrive pas dès les débuts de sa vie sexuelle à l'orgasme, alors pendant ces débuts-là, qu'est-ce que je ressens? Il y a quand même un certain plaisir, ou soit elle cherche juste pour satisfaire l'homme.
Oui, alors c'est une question très intéressante. Alors déjà, au début de la vie sexuelle, il y a quand même des femmes qui ont un orgasme dès le début de leur vie, qui ont des orgasmes dès les premiers rapports sexuels. C'est pas toutes les femmes qui n'ont pas d'orgasme au début. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont assez facilement des orgasmes par les caresses au niveau du clitoris, mais au niveau de la pénétration, il y a beaucoup de femmes au début qui n'ont pas d'orgasme avec la pénétration. Il y en a au moins 60%, si c'est pas 70% ou 80% au début. Donc ça, c'est sûr. Mais vous avez raison, c'est pas parce qu'une femme n'a pas d'orgasme qu'elle n'a pas de plaisir. Ça n'a rien à voir. Il y a des femmes, si vous voulez, qui ont énormément de plaisir. Moi, je connais une dame, par exemple, elle avait jamais eu d'orgasme de toute sa vie sexuelle. Avant sa ménopause, elle en a eu que quand elle a eu 50 ans des orgasmes. Et elle dit, et son mari aussi disait, on a beaucoup de plaisir tous les deux. Donc, Et il y a des personnes qui ont des orgasmes et qui ont très peu de plaisir. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, alors, ce que je peux vous dire, c'est très intéressant votre question, parce que vous dites, est-ce que c'est pour faire plaisir? Si elle a pas d'orgasme, est-ce qu'elle fait l'amour finalement pour faire plaisir à l'homme? Non, parce que même une femme qui a des orgasmes par le clitoris, donc des caresses externes, toutes les femmes ont ce qu'on appelle un désir de pénétration. Il y a chez la femme une envie d'être pénétrée qui est naturelle, et heureusement, parce que sinon on n'aurait pas de bébé, si vous voulez, s'il suffisait de caresser le clitoris, elle vous disait non, moi je veux pas de pénétration, j'aime pas ça. Donc il y a une envie de pénétration, et souvent il y a beaucoup de plaisir pendant la pénétration, qui est pas forcément un plaisir mécanique et seulement vaginal, mais qui est aussi un plaisir d'être interpénétré, d'être emboîté, d'être l'un dans l'autre, de sentir très proche. Il y a un plaisir émotionnel, il y a aussi un plaisir mécanique, mais même sans orgasme. Et donc, c'est pas du tout parce qu'une femme n'a pas d'orgasme vaginal qu'elle a pas de plaisir. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question,
John?
Oui, très bien, madame, mais j'ai une question par rapport toujours à ça.
Mm-hmm.
Alors, si, parlant de l'orgasme, donc, si je comprends que l'orgasme, c'est le sommet de ce plaisir en question.
Oui. L'orgasme, alors, c'est le sommet, oui.
Oui, c'est ce que, donc, quand vous parlez de ça, vous dites que même s'il n'y a pas d'orgasme, elle arrive à quand même avoir certains plaisirs. Alors, parlant d'orgasme, ça devrait être une préoccupation beaucoup plus chez les femmes. Parfois, quand on en parle, l'orgasme. Alors, je me dis, l'orgasme, c'est le moment sommet dans les rapports.
Oui, c'est ce que disait Catherine Solano, tout en distinguant les deux, en disant qu'il n'y avait pas forcément interconnexion entre les deux.
Et vous voulez dire que si elle n'a pas d'orgasme, elle n'a pas de sommet, c'est ça?
Non, j'ai dit ceci. Donc, si elle n'arrive pas, parlant de l'orgasme, donc si elle arrive à atteindre l'orgasme, donc ça, c'est le sommet du plaisir.
Mm-hmm. Oui. Ah oui, c'est quand même le sommet du plaisir. Mais vous savez, c'est difficile de dire c'est quoi le sommet du plaisir, parce que il y a des femmes qui vont dire, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand mon mari me prend dans ses bras et qu'il me dit qu'il m'aime. C'est pas forcément l'orgasme qui donne le plus de plaisir. Il y a des personnes qui disent, moi, j'ai des orgasmes. Je me rappelle une patiente qui avait jamais eu d'orgasme. Elle en a eu un jour. Elle m'a dit, bah, si c'est ça, c'est pas terrible, hein. Je sens un orgasme et bof. Donc, ça dépend énormément. Il y a des personnes qui ont des orgasmes extraordinaires. Et puis, la même personne peut un jour avoir un petit orgasme. C'est pareil pour les hommes. Vous savez, beaucoup d'hommes qui ont une éjaculation très précoce, en moins d'une minute, disent, j'ai très peu de plaisir quand j'ai un orgasme. Et quand ils apprennent à faire durer 5 minutes, ils vont dire, ah, mais j'ai 10 fois plus de plaisir pendant l'orgasme. Donc, vous voyez, c'est pas aussi simple que ça.
C'est pas forcément la quête absolue. Merci beaucoup, John, en ligne de Lubumbashi. Mm-hmm. On va partir pour le Bénin. On part pour Cotonou. Et c'est Gilles qui est en ligne avec nous. Bonjour, Gilles.
Oui, bonjour.
Le docteur Catherine Solano vous écoute.
Oui, bonjour, docteur.
Bonjour, Gilles.
Et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Et j'interviens dans l'émission,
oui,
pour une question qui m'étarouge l'esprit depuis des temps. Allô?
Oui, nous sommes là, on vous écoute, on écoute votre question.
Oui. Et certains couples novices, dans leur quête de méthodes et de moyens pour bien faire l'amour, font recours à des vidéos, à des cassettes pornographiques. Ils regardent ensemble ces cassettes-là pour pouvoir apprendre à bien faire l'amour. Je voudrais savoir s'il y a des inconvénients, des conséquences pour cette méthode-là.
Docteur Catherine Solano, l'impact du visionnage d'images pornographiques pour la sexualité. Derrière, il y a quand même une question, est-ce que c'est une méthode pour apprendre? Et là, j'imagine votre réponse.
Oui, vous imaginez très bien. Ben, c'est pas une très bonne méthode, loin de là. Déjà, je vais vous dire une chose quand même, ce que vous disiez Caroline en tout début d'émission, c'est assez normal que beaucoup de gens aient envie de regarder de la pornographie, parce qu'on doit être la seule espèce animale, parce qu'on est quand même des animaux en même temps qu'être des humains, à être obligé d'apprendre à faire l'amour sans voir les adultes faire l'amour. Si vous voulez, quand vous êtes, j'en sais rien moi, un chien, un chimpanzé, un lion ou quoi, vous voyez des adultes qui ont des relations sexuelles et je sais pas ce qu'ils se disent dans leur tête, mais vous dites, ça y est, j'ai compris comment on fait. Nous, on voit pas ça, nos parents, nos voisins, on voit rien du tout.
Il y a un tabou, c'est interdit.
C'est comme ça chez les humains. Chez les humains, il y a une intimité qui n'existe pas chez les animaux. Donc du coup, on a forcément une grande curiosité. Alors, le problème, c'est que cette curiosité, elle est remplie par la pornographie à l'heure actuelle. Et la pornographie, ça n'explique pas du tout bien comment faire l'amour. D'ailleurs, l'expression « faire l'amour », ça s'applique pas très bien à la pornographie, parce que franchement, je pense qu'il y a zéro amour dans la pornographie. Hein. Donc, la pornographie, c'est un peu une catastrophe, parce que déjà, ça va apprendre à ne pas faire de préliminaires. D'ailleurs, les personnes, moi je remarque ça tout le temps, je suis obligée de dire qu'est-ce que c'est les préliminaires. Parce que les personnes qui regardent de la pornographie vont vous dire j'ai fait des préliminaires. Ça veut dire j'ai fait une fellation à cunnilingus. Mais c'est pas du tout des préliminaires, c'est des rapports sexuels. Les préliminaires, c'est dire des mots d'amour, c'est prendre l'autre dans les bras, c'est déshabiller avec douceur, c'est faire des bisous un petit peu partout, faire des caresses sur les cheveux, sur les épaules, pas spécialement aller sur la zone sexuelle. Donc dans la pornographie, il n'y a pas de préliminaires. Or, les préliminaires, c'est extrêmement important, parce que pour une femme, si vous voulez, il faut plus de temps que pour un homme à avoir une excitation sexuelle et une lubrification. Si on fait pas de préliminaires, eh bien la femme, elle va avoir mal pendant la pénétration, ça va pas bien se passer, elle aura pas d'excitation. Donc la pornographie, ça apprend un peu le contraire de ce qu'il faudrait. Ensuite, ça apprend des positions bizarres. Parce que, si vous voulez, la pornographie, le but, c'est de pouvoir mettre une caméra et qu'on en voit le plus possible. Donc forcément, dans les positions classiques, on voit pas grand-chose si on met une caméra. Donc c'est pas intéressant pour le spectateur. Donc on invente des positions spéciales où on voit tout. Bon, ensuite, dans la pornographie, pour qu'on en voit le maximum, les gens sont épilés au maximum. Parce qu'une femme, normalement, elle a une pilosité au niveau du pubis et autour de la zone sexuelle. Ben, on arrache les poils pour qu'on voit beaucoup plus la peau, la muqueuse et tout ça. Et dans la vraie vie, quand vous faites l'amour avec une femme, vous n'avez pas les yeux sur son sexe. Parce que vos yeux, ils sont au niveau de son visage en général. Ça dépend de la position, vous me direz. Mais c'est... Donc, on apprend plein de choses. On apprend, par exemple, que les femmes vont crier si elles ont du plaisir, ce qui est totalement faux. La majorité des femmes ne crient pas, même si tout le monde peut crier un jour ou l'autre, ou il y en a qui crient à chaque fois quand même. Mais c'est pas du tout un signe de plaisir chez la femme.
On est dans le cliché, on est dans le cinéma.
On n'apprend pas du tout à donner du plaisir aux femmes. Je peux vous dire qu'aucune des actrices pornographiques n'a de plaisir pendant les films pornographiques. C'est que de la simulation. J'ai oublié des choses encore, mais tout est faux, en fait. Et du coup, en plus, on apprend à voir des choses violentes. Voilà, on apprend aussi que quand une femme dit non, c'est qu'en fait, elle a envie qu'il faut insister. Dans la vraie vie, si on continue, c'est un viol, vous voyez. C'est pas du tout la même chose. Etc, etc. Donc, c'est vraiment une très mauvaise idée. En revanche, je comprends bien que quand on est un jeune garçon ou une jeune fille, on a envie de savoir un peu l'anatomie, de voir comment ça se passe. Ça se comprend, mais c'est un peu faux, parce qu'on va toujours sélectionner les hommes en prenant un centimètre pour voir qui a le pénis le plus grand. Les femmes, on va les épiler. Souvent, elles sont opérées pour changer la forme des petites lèvres, etc. Donc, il y a beaucoup de choses complètement fausses. Voilà mon avis.
Gilles, un avis très détaillé du docteur Catherine Solano. Je pense que vous avez bien compris la teneur de sa réponse. La pornographie n'est pas l'école de l'amour, selon elle. Vous, c'est quelque chose que vous faites, ce visionnage, vous pensez vous inspirer de ce genre de choses?
Non, aucunement. Mais j'ai des amis qui en parlent, qui font usage de ces visionnages d'images et qui en parlent. Et moi, je les conseille de ne pas faire ça, puisque d'abord, il y a, comme le docteur le docteur Solano vient de le dire, il n'y a aucun amour dans ces trucs-là. Il n'y a pas de l'amour dans ces trucs.
Et docteur Catherine Solano, vous le soulignez même assez souvent, la pornographie peut même avoir un effet bloquant.
Oui, ça peut bloquer. Je me rappelle d'un monsieur qui m'a dit, mais moi, quand j'étais à l'adolescent, j'ai vu de la pornographie et je me suis dit, mais si c'est ça être un homme, moi, je veux pas avoir de rapport sexuel, c'est horrible, ça m'intéresse pas. Ensuite, il y a des blocages par rapport à l'érection. Parce qu'il y a des jeunes garçons qui regardent énormément de pornographie, donc ils finissent par ne plus avoir d'excitation tellement ils s'habituent aux images. Et quand ils ont un rapport sexuel, ils ont du mal à avoir une érection, ils ont du mal à éjaculer. Donc ça, c'est dommage.
Merci beaucoup, Gilles, de votre appel de Cotonou au Bénin. On va retrouver les auditeurs, les auditrices de Priorité Santé dans quelques minutes. Toujours pour répondre à vos questions. Le thème de l'émission, c'est « Peut-on apprendre à faire l'amour aujourd'hui ?» Émission spéciale sexualité, c'est bien sûr en compagnie du docteur Catherine Solano, sexologue. On se retrouve dans 3 petites minutes. Ce sera juste après les informations. À tout de suite.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé, toujours pour répondre à une vaste question. Peut-on apprendre à faire l'amour? Et c'est en votre compagnie, docteur Catherine Solano. On vous retrouve. L'apprentissage de la sexualité, sujet de notre émission. Vous nous appelez pour nous poser vos questions, bien sûr, pour savoir comment donner du plaisir, comment prendre du plaisir, comment apprendre parfois à s'améliorer pendant les relations sexuelles. Quelles conséquences l'ignorance sexuelle a-t-elle pu avoir sur vous, sur les personnes de votre entourage? Toutes vos questions avec Catherine Solano, bien sûr, docteur Solano, ses réponses. Sans plus tarder, on va prendre la question de Mathieu, qui est en ligne de République démocratique du Congo, de Kinshasa précisément. Bonjour Mathieu.
Ah, bonjour madame, c'est Mathieu. Je salue tous les auditeurs de la radio et les docteurs et les invités du jour. Merci beaucoup.
Alors, docteur Catherine Solano vous écoute et les auditeurs aussi écoutent votre question.
Si quelqu'un fait beaucoup de jours, hein, depuis qu'il a atteint l'âge de l'adultère, il n'a pas fait l'amour, est-ce que ça ne doit pas lui poser des préjudices? Et quelles conséquences y a-t-il?
Alors cette question de Mathieu, question derrière cette question, c'est peut-être est-ce qu'on peut oublier comment faire l'amour si on n'a pas eu de relation pendant une longue période?
Alors quand un homme n'a pas eu de relation pendant une longue période, il y a quand même des choses qui changent. Une femme aussi d'ailleurs, mais on ne va pas oublier. Je me rappelle une patiente qui m'avait dit ça, j'ai peur d'avoir oublié comment on fait, ça fait si longtemps que j'ai pas fait l'amour. Et quand elle l'a refait, elle est revenue me voir, elle m'a dit, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Donc là, je peux rassurer Mathieu, ça ne s'oublie pas. En revanche, ça peut changer des choses. Et là, je suis content, Mathieu, que vous posiez cette question. Pour les auditeurs qui nous écoutent, pour vous, et aussi pour les femmes qui nous écoutent. Parce que comme elles ne le savent pas, ce que ça change, eh ben souvent, ça pose des problèmes. C'est que quand un homme n'a pas eu de rapport sexuel pendant plus de 6 mois, et des fois, ça va être 1 an, 2 ans, 5 ans, ça dépend, suite à une rupture, un veuvage, etc. Au début, l'érection n'est pas aussi bonne. Pendant les premiers temps, un homme ne va pas avoir une érection aussi bonne. Parce que c'est comme si les circuits... Pourtant, il a des érections le matin, la nuit, etc. Mais au début, est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est le fait de recommencer, de réactiver tous les circuits du désir, de l'excitation? Souvent, au début, l'érection est moins bonne. Il faut pas s'inquiéter quand on est... Je dis ça pour les femmes aussi parce que résultat, je pense à un de mes patients adorables, il était divorcé, il rencontre une femme et ça, il a eu un peu une panne, c'était pas terrible. Et elle a été catastrophée. Et du coup, ce pauvre monsieur, ça l'a complètement traumatisé. Il m'a dit, j'ai arrêté avec elle et maintenant, j'ose plus rencontrer personne. Si cette femme avait su que ça faisait plus de 2 ans qu'il avait pas eu de rapport sexuel et surtout si elle avait su que c'était normal au début, elle lui aurait dit, t'en fais pas, on se plaît beaucoup, on va réessayer et en quelques fois, ça va marcher. Donc ça, c'est la première chose. Donc, souvent, en tant que sexologue, quand un homme redémarre sa vie sexuelle, que ça marche pas terrible, on va lui prescrire un médicament un peu comme le Viagra. Et je dis à mes patients, un homme, c'est comme une voiture. Vous le mettez au garage pendant 1 an, et ben ça redémarre pas au quart de tour. Il faut un petit starter et c'est le médicament. Bon, on n'est pas obligé de prendre un médicament, ça redémarre tout seul, mais ça peut aider quand c'est nécessaire. Le deuxième changement que ça produit, c'est l'éjaculation précoce. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas eu de rapport depuis longtemps, ou un homme qui démarre sa vie sexuelle, qui a jamais eu de rapport sexuel, eh bien, au début, très souvent, il va avoir une éjaculation très précoce. C'est normal, ça fait ça à tous les hommes et il faut que les femmes le sachent parce que c'est pareil, elles vont dire pas de chance, comme un de mes patients, sa partenaire a dit pas de chance, je suis tombée sur quelqu'un qui a une éjaculation précoce. Non, il a rien du tout, c'est juste qu'il a pas eu de rapport sexuel depuis longtemps. C'est un peu comme si toute l'énergie s'était accumulée et qu'elle sortait. Donc c'est pas du tout grave, il faut le savoir parce que quand on le sait, ça rassure. Quand la femme le sait, ça le rassure. Et je conseille souvent à mes patients de dire à leur partenaire, quand ils n'ont pas eu de rapport depuis longtemps, « Tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas eu de rapport sexuel, je vais peut-être pas être au maximum aujourd'hui. » Voilà, rien que ça, parce que si elle n'est pas au courant que ça provoque des changements, elle peut... Parce que les femmes sont pas toujours sympas, elles font des fois des remarques désagréables. Mais c'est pas par manque de gentillesse, très souvent, c'est parce qu'elles sont stressées. Elles se disent, il n'a pas une bonne érection, c'est que je ne lui plais pas. J'ai les seins trop gros, trop petits, les fesses trop comme si, le ventre comme ça, j'ai une cicatrice, je sentais peut-être pas bon, j'en sais rien. Tout le monde. Et donc, elles sont stressées en se disant, il n'a pas une bonne érection, c'est que je ne lui plais pas. Alors que ça n'a rien à voir. Si elle ne lui plaisait pas, il ne serait pas dans son lit avec elle.
Mathieu, est-ce que le docteur Solano a répondu à votre question ?
Oui, il a répondu. J'avais encore une autre question.
On vous écoute.
Je ne sais pas si vous pouvez me le permettre.
Mm-hmm. On vous écoute.
C'est si gentiment demandé qu'on peut vous le permettre.
J'ai dit ceci. Qu'est-ce qui peut rendre les spermes fort et puissant ? Et comment éviter l'éjaculation précoce ?
Il y a eu une forme de réponse du docteur Solano à l'instant. Quant à ce que Mathieu désigne comme la force du sperme, qu'est-ce que c'est ?
Oui, déjà, pour l'éjaculation précoce, la chose la plus importante, c'est la fréquence des rapports sexuels. C'est-à-dire qu'un homme qui recommence sa vie sexuelle, par exemple, il n'a pas eu de rapport depuis longtemps, il rencontre une femme, il a un rapport sexuel, si c'est tous les 15 jours, par exemple, parce qu'elle habite pas tout près, eh bien, il va avoir une éjaculation précoce presque à chaque fois, c'est normal. S'il en a pas, il a de la chance, c'est qu'il se débrouille bien, hein. Par contre, pour ne pas avoir d'éjaculation précoce, idéalement, il faut avoir des rapports réguliers 2 ou 3 fois par semaine. Ou plus, évidemment, mais à moins de 2 fois par semaine, ça risque d'être rapide. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Et les jeunes qui débutent leur vie sexuelle ne le savent pas. Donc au début, la première fois, c'est rapide. La deuxième fois, c'est 3 semaines après, c'est rapide. Au bout de la 4e fois, qui est peut-être 10 jours après, c'est toujours rapide. Ils se disent, ça y est, j'ai une éjaculation précoce. En fait, quand ils viennent me consulter, je leur dis, attendez d'avoir pendant 1 mois, 2 ou 3 rapports par semaine. Et la plupart du temps, ça se passe bien. Bon, par rapport au sperme, ce qui est important, c'est de... Enfin, disons que normalement, le sperme, il n'y a rien à faire pour qu'il soit bon, hein, qu'il soit fort, qu'il soit fertile, je dirais. Ce qui est très mauvais pour les testicules, c'est la chaleur. C'est-à-dire les gens qui ont un métier où leurs testicules sont devant un four, par exemple les boulangers ou les gens qui travaillent dans l'industrie devant des fours, ça peut abîmer les spermatozoïdes. Donc, c'est conseillé de pas porter des choses très serrées qui frottent, etc., parce que ça réchauffe les testicules, c'est pas très bon. Mais à part ça, il y a rien de spécial. Toutes les drogues sont mauvaises. Le tabac, par exemple, ça abîme le sperme. Mais toutes les autres drogues aussi. Mais à part ça, il y a normalement, quand on est jeune et en bonne santé, le sperme, il est bon.
Voilà pour cette réponse du docteur Solano. Mathieu, merci beaucoup de votre appel de Kinshasa. On va rester en République démocratique du Congo et retrouver en ligne Kevin qui est à Lubumbashi. Bonjour Kevin.
Bonjour Caroline, bonjour docteur, bonjour à votre super équipe.
Merci, c'est très gentil. On écoute votre question.
Ah, j'ai une question docteur. En fait, j'ai eu mon premier rapport sexuel, c'était à 18 ans et ma conjointe avait 17 ans. C'était avec protection. Et la pénétration a fait moins de 5 minutes. J'aimerais savoir pourquoi ça n'a pas duré. Parce que j'ai peur que ça se reproduise encore.
Alors, on revient sur cette fameuse question de la durée du rapport sexuel, docteur Catherine Solano. Là, c'est carrément un premier rapport sexuel. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure.
Alors, un premier rapport sexuel qui dure 5 minutes, c'est 5 minutes à partir de la pénétration, c'est ça à peu près ?
Oui, c'était moins de 5 minutes.
Voilà, parce que, alors je vais vous dire, à partir du moment où ça dure plus de 3 minutes, ça n'est pas une éjaculation précoce. Donc quelqu'un qui a un rapport de pénétration qui dure 5 minutes, c'est tout à fait normal. Surtout pour une première fois, où souvent ça dure beaucoup moins. Des fois, la première fois, ça dure 30 secondes. Donc ça n'est pas du tout une éjaculation précoce. Et ça veut dire que c'est plutôt bon signe pour la suite. C'est que avec des rapports sexuels plus réguliers qui vont se répéter, au lieu de durer, mettons, si c'était un peu moins de 5 minutes, 4 minutes, ça va durer 5, 6 minutes, 10 minutes et ça sera très bien. Il y a pas de... Parce que après, pour faire durer, normalement, si vous voulez, la pénétration, ça peut durer une demi-heure, peut-être, mais on ne peut pas faire des mouvements de va-et-vient intensifs pendant une demi-heure sans faire mal à sa partenaire et sans faire mal au pénis. Donc, quand ça dure plus longtemps, c'est qu'on arrête, on retire le pénis, on se refait des caresses, on recommence une pénétration. Donc là, vous êtes dans un cas où c'est normal et ça n'a pas duré peu de temps, ça a duré normalement. Et je vais vous dire une chose aussi, c'est que j'ai pas dit tout à l'heure pour la pornographie, mais la pornographie, ça fait croire qu'on peut tenir des heures, et ça, c'est pas la vraie vie, c'est parce qu'ils font des coupures dans les films et ils recommencent. Donc c'est normal, il n'y a pas de problème.
Voilà, Kevin, pour cette réponse du docteur Catherine Solano. Merci beaucoup de cet appel de Lubumbashi. On va passer tout de suite à Stéphane, qui est en République centrafricaine, à Bangui. Bonjour, Stéphane.
Bonjour, Caroline, et bonjour à docteur Solano.
Bonjour, Stéphane.
On écoute votre question.
Mon problème, c'est quoi, docteur? J'ai une copine que nous avons sorti depuis 6 mois. Et à chaque fois que je l'ai demandé de me satisfaire, elle ne veut pas. Il faut que j'insistais pour qu'elle puisse me satisfaire. Et parfois, là, on faisait un rapport, là, il faut un mois ou dans 2 rapports dans 1 mois. Parfois, 3 rapports dans 1 mois. Donc, c'est ça qui m'inquiète. Et à chaque fois, je l'ai demandé, est-ce qu'elle ressent quelque chose au moment qu'on faisait un rapport, là? Elle ne répond pas. Ou c'est la honte, je ne sais pas, c'est pour cela que je vous ai envoyé mes problèmes.
Elle ne vous répond pas quand vous lui posez la question? Elle ne vous dit pas, justement, pourquoi elle refuse ce rapport sexuel? Quelle est la raison de ce refus?
Oui, c'est ça. À chaque fois qu'on faisait le rapport, là, je l'ai demandé, est-ce qu'elle ressent quelque chose, mais elle ne répond pas.
Oui, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, non, elle n'a pas envie, elle évite les rapports sexuels, et quand vous en avez, elle ne vous dit pas si c'était agréable ou pas. Donc, vous ne savez pas du tout si elle a quelquefois envie ou jamais, ou si elle a mal ou si elle a du bien, vous ne savez pas. C'est ça? Ouais. Alors, dans ce que vous me racontez, moi, je me dis quand même, votre amie, elle vous aime, elle est bien avec vous, à part la sexualité, vous vous entendez bien? D'accord. Parce que, oui, on vous entend. Oui, vous vous entendez bien pour le reste.
Pardon ?
Stéphane, le docteur Solano vous demande si vous avez une bonne entente, je dirais, en dehors de l'intimité. Vous sortez ensemble, vous avez des activités, vous sortez avec des amis, vous entendez bien ?
Oui, on sortait ensemble. On sortait ensemble, nous avons des bonnes ententes entre nous.
D'accord. Parce que alors, ce que vous me décrivez, ça me fait penser qu'il y a une question quand même à poser à votre amie, c'est si elle a déjà eu une agression sexuelle ou quelque chose qui l'a bloquée au niveau de la sexualité. Parce que vous voyez, quand on s'entend bien, qu'on est bien ensemble, qu'on a un homme amoureux qui vous désire, et qu'on est jeune en plus, parce que je sais que vous ne nous avez pas donné votre âge, mais vous vous connaissez depuis 6 mois, c'est une relation récente. C'est bizarre qu'elle ait pas plus d'envie, qu'elle soit aussi réticente.
Tout en voulant rester avec
vous. En voulant rester avec vous, en étant bien avec vous. Donc, je pense qu'il faudrait lui poser la question, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de désagréable sur le plan de la sexualité? Parce que je sens que t'as peur, etc. Et, vous lui dis-moi juste oui ou non. Je te demande pas de me décrire parce que elle peut vous dire non parce qu'elle aura pas envie. Vous lui dites, je te demande rien de plus. Comme ça, vous aurez déjà un indice parce que, disons que pour un homme comme vous, ce qui est difficile, vous avez l'impression de pas être désiré. Alors qu'en fait, il y a sans doute quelque chose qui est pas lié à vous, mais qui est lié soit à son éducation, où on lui a dit le sexe c'est mal, c'est moche, c'est sale, etc. Soit qu'elle a eu, je sais pas, des attouchements ou quelque chose qui l'ont choqué. Et alors, bon, ça, c'est la première chose que je vous conseille. La deuxième que je vous conseille, c'est de lui faire beaucoup de câlins non sexuels. De lui dire, écoute, je veux pas faire l'amour avec toi. Bon, même si vous avez envie de le faire, hein, c'est pas la question. Mais je vais te faire des caresses et vous lui faites pas de caresses sexuelles, que les épaules, le cou. Vous vous mettez tout nu contre elle en lui faisant des caresses pour que elle, si elle a eu quelque chose comme une agression ou une mauvaise expérience, qu'elle sente qu'il y a de l'amour et que le corps, c'est quelque chose de joyeux, d'agréable et qu'elle va pas avoir mal, qu'on va pas l'agresser.
Rétablir la confiance.
Ça sera peut-être pas facile pour vous, j'en suis consciente, parce que quand on aime quelqu'un, qu'on la désire, bah, c'est pas évident de se dire, je vais pas avoir de rapport sexuel. Mais peut-être que c'est une manière de l'apprivoiser et d'y arriver par la suite.
Voilà. Voilà Stéphane, la réponse du docteur Solano. Merci beaucoup de cet appel de Bangui en RCA. On va rester en Afrique centrale, République démocratique du Congo, Boutembo. C'est Georges que nous avons en ligne. Bonjour Georges.
Bonjour mes filles.
On vous écoute Georges, le docteur Catherine Solano vous écoute.
Ok, merci pour l'émission, mais je voudrais poser à des questions à monsieur le docteur. Je voudrais savoir comment peut-je savoir la satisfaction et le plaisir sexuel d'une fille qui ne pousse pas les cris. pendant la relation sexuelle. Mm-hmm. Ça, c'est la première question. La deuxième question, dès le début de la relation, qu'est-ce qui peut empêcher la pénétration du pénis? Car j'ai une copine, mais quand nous faisons la relation, nous commençons à utiliser les préservatifs pour faciliter la pénétration du pénis. La troisième et la dernière question, je voudrais savoir si les garçons est encore pis, si les garçons est encore pissot, est-ce que quand ils prennent pour la toute première fois une fille, est-ce que cette fille peut être grosse? C'est ça mes trois questions.
Est-ce que la fille peut tomber enceinte, hein, si je vous comprends bien, Georges, est-ce que la fille peut tomber enceinte dès la première relation sexuelle avec un garçon?
C'est ça. Alors, je vais commencer à l'envers. Hein. Donc, la troisième question, une fille peut se trouver enceinte suite à un seul rapport sexuel, la première fois d'un garçon et la première fois d'une fille. Ah ben ça, c'est certain. Hein. Même ça se produit très souvent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand une fille a son premier rapport sexuel, souvent c'est qu'elle en a très envie. Elle se dit « bon, allez, j'ai tellement envie ». Et quand on a très envie, c'est souvent qu'on est en période d'ovulation. Donc souvent, les premières fois, c'est à haut risque. Et surtout qu'une première fois, on est jeune. Et plus on est jeune, plus on est fertile. Donc franchement, une fois suffit, la première suffit.
La deuxième question de Georges portait sur l'usage du préservatif, si je me souviens bien.
Alors moi, je suis étonnée par ce que vous racontez, parce que vous dites on met un préservatif pour faciliter la pénétration. Habituellement, le préservatif, ça facilite pas la pénétration, c'est moins facile avec un préservatif que sans préservatif. Ou alors, c'est parce que le préservatif est lubrifié et que la jeune femme n'a pas beaucoup de lubrification. Mais dans ces cas-là, ce qui faciliterait le plus la pénétration, c'est du lubrifiant. Et ce qui serait encore mieux, c'est des préliminaires, c'est-à-dire des caresses non sexuelles au début, pour donner plus de désir et d'excitation et plus de lubrification à la jeune femme.
Hein? Georges, il y avait une troisième question. C'est cette question, c'était sur l'écrit, hein, sur la façon d'exprimer son plaisir de façon, on va dire, spectaculaire.
Mais par rapport au préservatif, ça a répondu à votre question ou pas,
Georges, par rapport à la question que vous aviez posée?
Oui, je suis satisfait à la réponse donnée par les docteurs.
D'accord. Alors, pour les cris maintenant, écoutez, vous vous dites comment ça se fait que si une femme ne pousse pas de cris pendant la relation,
comment savoir si elle a du plaisir?
Il faut savoir que la plupart des femmes ne poussent pas de cris pendant les rapports sexuels, sauf les femmes qui simulent dans la pornographie. Voilà. Et alors, je dis pas que 0% des femmes poussent des cris, mais j'ai plein d'histoires là-dessus. Moi, j'ai une patiente, elle me disait, pendant des années, j'ai simulé, je poussais des cris parce que j'avais pas d'orgasme. Et un jour, j'ai eu des orgasmes. Donc, j'ai arrêté de simuler. Maintenant, je crie plus du tout. Et mon mari me dit, je comprends pas. Avant, t'avais beaucoup de plaisir, tu criais, et maintenant, tu cries plus jamais. Et elle me dit, j'ose pas lui dire, c'est qu'avant, j'avais pas d'orgasme, et maintenant, j'en ai. Donc, vous voyez, ça veut rien dire du tout.
Mais docteur Solano, il y a d'autres signes du plaisir. Il y a des regards, il y a des soupir, il y a plein de choses.
Voilà, parce que les cris, si vous voulez, on peut crier parce qu'on a mal aussi. Une femme qui crie, elle n'a pas forcément du plaisir. Et donc, les signes de l'orgasme chez la femme, c'est pas du tout les cris, c'est les contractions à l'intérieur du vagin. C'est-à-dire, si vous avez le pénis dans le vagin, vous sentez qu'il y a comme des vagues de contractions qui serrent le pénis. Ça, c'est qu'il y a un orgasme. Bon, même si une femme peut le faire volontairement aussi. Donc, il y a des femmes qui crient pas du tout, qui ont un plaisir très intérieur. Il y a des femmes qui gémissent. Il y a des femmes qui gigotent. Il y a des femmes qui se mettent à rigoler, il y a des femmes qui poussent un grand soupir, il y a des femmes qui ont l'air de tomber dans les pommes presque, il y en a qui pleurent. Enfin, la seule manière de savoir si une personne a eu du plaisir, c'est de lui dire « as-tu eu du plaisir ?» Si vous voulez vraiment plus, vous lui dites de 0 à 10, aujourd'hui ton plaisir c'était quoi? Mais franchement, c'est pas très romantique.
Non, c'est pas romantique en général, en plus ça se verra parce que peut-être qu'elle aura aussi envie que ça continue ou de recommencer.
Oui,
éventuellement.
Oui.
En tout cas, elle n'arrêtera pas. Merci beaucoup, Georges, pour ces questions. Les réponses du docteur Solano, que le docteur Solano y a apportées. On va tout de suite entrer en contact avec Alma, qui est au Gabon, à Libreville. Bonjour, Alma.
Oui, bonjour, madame. Bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé.
On écoute votre réponse, Alma. Votre question, Alma, pardon. Je vais un peu trop vite en besogne.
Je vais poser une question.
Oui, j'ai trois questions. La première est celle-ci. À quelle fréquence doit-on faire l'amour? C'est la première question.
Alors, je vais répondre tout de suite. Eh bien, il n'y a pas de réponse à votre question parce qu'il n'y a pas une fréquence à laquelle on doit faire l'amour. C'est comme si vous disiez « doit-on tomber amoureux ?» Bah, je peux pas vous dire. On doit faire l'amour à la fréquence qui nous convient et qui convient à notre partenaire. Donc souvent, c'est un peu une négociation entre les deux parce que c'est quand même une question intéressante parce que en général, dans un couple, les deux n'ont jamais envie exactement au même moment et exactement à la même fréquence. Donc il faut trouver un arrangement qui convient aux deux. Enfin, un arrangement, c'est pas très romantique, hein, mais un équilibre, je dirais, qui convient aux deux partenaires. Ça peut être une fois par mois. Il y a des couples qui font l'amour qu'une fois par mois, qui sont très heureux. Souvent, ils se font plein de câlins autrement. Il y a des couples qui font l'amour tous les jours, qui ça dure 3 minutes tous les soirs, mais ça leur convient. Il y en a qui le font une fois par semaine pendant 3 heures. Il y en a qui le font 3 fois par semaine 20 minutes. Il n'y a pas de règle. Il y en a qui le font tous les matins, d'autres le soir. Il n'y a pas de règle.
On a compris. Chacun fait comme il le sent. Alma, vous aviez une deuxième question?
Oui. J'aimerais savoir s'il y a un danger, si on peut courir un certain danger au sens moral ou physique en ne faisant pas l'amour, en ne faisant pas les rapports sexuels.
Alors l'abstinence, est-ce que c'est dangereux?
Non, l'abstinence, c'est pas du tout dangereux. Il n'y a aucun risque, ni pour la santé physique, ni pour la santé morale. Par contre, on peut se sentir triste quand même, on peut se déprimer de se sentir seul. Mais sinon, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de rapport sexuel pendant des années pour cause de séparation, de veuvage ou de choix personnels ou même de choix religieux et qui sont tout à fait épanouis dans leur vie parce que ils ont quand même beaucoup de relations humaines par ailleurs. Vous voyez, si on a plein d'amis, plein de relations humaines, je veux dire sociales, etc., on peut être très épanoui même sans rapport sexuel. Voilà. Et puis j'ajouterais que la masturbation, ça existe, et souvent beaucoup de personnes qui n'ont pas de rapport sexuel pratiquent la masturbation en compensation et ça les aide à être équilibrés.
Votre dernière question, Alma?
Oui, il m'est déjà arrivé pendant mon sommeil, je rêve que je suis en train de faire les rapports sexuels et au réveil, je sens que effectivement la culotte est mouillée et j'aimerais savoir est dû à quoi, parce que le jour, par exemple, je ne pensais pas à cela. Et donc la nuit, je me mets à rêver que je suis en train de faire le coït et au réveil, sans qu'il y a...
Il y a eu une éjaculation la nuit. Ben, écoutez, ça, c'est quelque chose de très banal, qui est très fréquent chez tous les hommes. Ça se produit très souvent à l'adolescence. Souvent, les premières éjaculations, elles sont provoquées pendant le sommeil. C'est fréquent. Par la suite, il y a des hommes qui continuent à en avoir toute leur vie de temps en temps. Et ça arrive plus souvent quand on n'a pas de rapport sexuel, justement. Et c'est quelque chose de normal. C'est signe de bonne santé sexuelle, même. Hein. C'est normal. Ça n'a rien de... Bon, on peut sentir, souvent les adolescents sont un peu gênés, mais après on se dit bah c'est la vie.
Voilà Alma pour ces réponses du docteur Solano à vos questions. Merci beaucoup hein, pour cet appel de Libreville au Gabon. On va prendre un auditeur, peut-être le dernier pour cette journée. Cet auditeur, c'est Dieudonné qui est au Tchad, à Mundo. Bonjour Dieudonné.
Bonjour.
On écoute votre question.
Bonjour Dieudonné.
Docteur Solano vous écoute, on écoute votre question.
Bonjour à tous les étudiants de la radio mondiale.
On vous écoute.
Ma question est la suivante. Bonjour, ma question est la suivante. Est-ce qu'avec un petit pénis, peut-on satisfaire sa conjointe? Si oui, j'aimerais savoir comment peut-on le faire.
Alors, avec un petit pénis, peut-on satisfaire sa partenaire? La réponse est oui. Je vais vous dire, il y a même des femmes qui disent « moi, je préfère un petit pénis parce qu'un homme avec un gros pénis, ça me fait peur et j'ai peur d'avoir mal ». Ça, c'est une chose. La deuxième raison pour laquelle on peut satisfaire sa partenaire, c'est que le vagin, on appelle ça une cavité virtuelle. Ça veut dire que ses parois se touchent. Quand le vagin est repos, c'est pas un trou. Vous savez, on entend déjà dire que c'est un trou. Ben, c'est pas du tout un trou. C'est un orifice, mais qui est fermé. Et donc, quand le pénis rentre dans le vagin, il écarte forcément ses parois. Donc, il y a forcément une pression à l'écartement. D'accord? Donc, si vous voulez, il ne reste pas un vide, même si le pénis est petit. Bon, voilà. Et ensuite, troisième chose, c'est que pour aider à satisfaire sa partenaire, si on trouve que le pénis est petit, la solution, c'est de demander à la partenaire de faire de la musculation du périnée, c'est-à-dire pendant la pénétration, le pénis est dans le vagin, vous demandez à votre partenaire de serrer le pénis. Ça fait travailler des muscles qui vont faire que le vagin sera beaucoup plus tonique et qu'il aura plus de sensations. Mais il y a encore autre chose à faire pour donner du plaisir à votre partenaire, c'est de stimuler le clitoris. Parce que très souvent chez les femmes, la zone du plaisir et qui provoque le plus facilement des orgasmes, c'est le clitoris et pas tellement le vagin. Donc ça veut dire que vous pouvez faire des caresses avec vos doigts, avec vos mains, avec votre bouche, avec votre langue, et que la stimulation du clitoris n'a vraiment rien à voir avec la taille du pénis.
Voilà pour cette réponse, Dieudonné. Dieudonné, vous êtes avec nous ?
Je suis avec vous, s'il vous plaît.
La réponse du docteur Catherine Solano. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano.
Merci, Caroline. Merci à tous nos auditeurs de se confier, parce que c'est pas évident de confier son intimité comme
oui,
ça à la radio.
Oui, des choses quand même très, très, très personnelles. Voilà, et toutes ces réponses apportées avec bienveillance, rétablir la confiance, comprendre que chacun a une conduite qui lui est propre. Hein. Il n'y a pas de règles, en fait. Hein. Parce qu'on disait, est-ce qu'on peut apprendre ? La réponse, c'est chacun selon ses compétences, chacun, surtout selon ses envies.
Voilà, et puis on apprend à deux.
À deux, voilà, en écoutant l'autre. Merci beaucoup. Demain, Priorité Santé, nous parlerons du contrôle du poids. N'hésitez pas à nous appeler 33 84 22 75 75.
Priorité Santé, avec Sonoy Assurance, qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Sonoy Assurance, notre métier, l'assurance.